السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا.
J'évoquais سیدنا عمر رضی اللہ عنہ dans mes précédents sermons. Je présenterai plus de détails à son sujet dans le sermon d'aujourd'hui. Zayd bin Aslam déclare que son père a relaté. Une fois, je suis parti à Harawakim avec Umar bin al-Khattab. Il s'agit d'un endroit situé entre les deux Harra. Harra signifie une terre noire rocailleuse. À l'est de Médine se trouve Harra Wakim, également connu sous le nom de Harra Banu Qurayza. Et le second est nommé Harra Tulwabra, situé à 5 km à l'ouest de Médine. Le narrateur rapporte, « Je me suis rendu là-bas, et lorsque nous sommes arrivés à Sarrar, il y avait un feu qui brûlait dans un endroit. Sarrar est également situé à 5 km de Médine. Umar bin Khattab a déclaré, « Oh Aslam, je pense que ce sont des voyageurs qui se sont arrêtés là en raison de la nuit et du froid. Viens avec moi. » Ainsi, nous avons marché rapidement et nous nous sommes approchés d'eux et nous avons vu une femme avec quelques enfants et un chaudron sur le feu. Ses enfants pleuraient en raison de la faim. Omar lui a dit, « Assalamu alaikum, ô gens de lumière. » Il ne souhaitait pas dire « aux gens du feu » mais « aux gens de la lumière ». La femme a répondu « wa alaikum salam ». Omar lui a demandé « est-ce que je peux me rapprocher ?» La femme a répondu « venez si vous avez de bonnes intentions, sinon partez ». Cela signifie que si vous avez quelque chose de bien à dire, vous pouvez venir, sinon vous devez repartir. Le calife Omar s'est approché. Ensuite, il a demandé, « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» La femme a répondu, « La nuit et le froid nous ont retenus ici. » Omar a demandé, « Quel est le problème avec ses enfants ? Pourquoi est-ce qu'ils pleurent ?» La femme a répondu en raison de la faim. Le calife Omar a demandé, « Qu'est-ce qu'il y a dans cette marmite ?» La femme a répondu qu'il n'y a que de l'eau dans cette marmite et j'essaye de réconforter les enfants jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Allah décidera entre nous et Omar. Omar a répondu, « Que Dieu ait pitié de toi, ô femme. Comment Omar peut-il connaître votre état ?» Elle a répondu, « Il est responsable de nos affaires, mais il nous ignore. » Aslam, qui était avec Omar, a déclaré, « Omar est venu vers moi et il m'a dit, « Accompagne-moi. » Puis nous sommes partis à la Darul Daqiq très rapidement. Le calife Omar avait construit un bâtiment appelé Darul Daqiq à son époque, dans lequel on avait entreposé à de la farine d'orge, des dattes et des raisins secs et d'autres nécessités de voyage dont pourraient avoir besoin les voyageurs. Il avait aussi construit des auberges pour les voyageurs sur les routes entre Médine et la Mecque. En tout cas, il a fait sortir un sac de céréales et un bidon d'huile. Il a dit, « Fais-moi porter cela. » Aslam déclare, « Je lui dis que je le porterai à sa place. » Mais le calife Omar m'a dit à deux ou trois reprises, « Place ceci sur mon dos. » Je lui répétais que je le ferai à sa place. En fin de compte, le calife Omar a déclaré, « Tu ne comprends pas, porteras-tu mon fardeau le jour de la résurrection ?» Puis j'ai chargé ce sac sur son dos. Ensuite, il a pris le sac sur le dos et il a marché d'un bon pas et je me suis dépêché derrière lui et nous sommes arrivés tout près de cette femme. Il a descendu le sac et il en a fait sortir de la farine. Et il a dit à la femme, « Place-le lentement dans la marmite, moi je la tournerai pour toi. » Selon un autre récit, Omar aurait dit, « Place-y de la farine lentement, je vais préparer du harira pour toi. » Ensuite, il a commencé à souffler sous la marmite pour attiser le feu. Aslam, le narrateur, relate que Omar Radetranhu avait une grande barbe qui était épaisse et qu'il a vu de la fumée en sortir. C'est-à-dire que la fumée montait et elle lui tombait sur le visage et passait à travers sa barbe. Lorsque le repas était cuit, il a fait descendre la marmite et il a déclaré « Apporte-moi un récipient ». La femme a apporté une grande assiette. Omar a placé de la nourriture dedans. Il a dit « Donne cela aux enfants, je vais l'étaler pour toi afin que le repas se refroidisse ». Et il n'a cessé de le faire jusqu'à ce que ses enfants aient mangé à leur faim et il leur a laissé ce qui restait. Aslam déclare, il s'est levé et je me suis tenu avec lui. La femme a dit, qu'Allah vous accorde la meilleure des récompenses. Vous méritez plus de récompenses que l'émir des croyants. Le calife Omar a déclaré, dis de bonnes choses parce que lorsque tu iras voir l'émir des croyants, tu vas m'y trouver si Dieu le veut. Le calife Omar s'est éloigné de là et il s'est assis face à cette femme. Je lui ai demandé s'il avait autre chose à faire. Il ne m'a pas répondu jusqu'à ce que les enfants commencent à jouer entre eux et ils riaient. Ensuite, ils se sont endormis paisiblement. Le calife Omar radhiyallahu anhu a remercié Dieu et il s'est levé. Et il s'est tourné vers moi et il a dit, « Oh Aslam, ces enfants étaient éveillés et ils pleuraient en raison de la faim. Et j'ai voulu ne pas partir de là jusqu'à ce que j'ai vu l'état de confort que je venais de voir à l'instant. » Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu a également relaté cet incident. Il déclare à ce propos, il incombe à l'État islamique de répondre aux besoins des nécessiteux. Il expliquait ici la responsabilité de l'État islamique. Il déclare, il y a un incident dans la vie du calife Omar à cet égard, un incident qui est très révélateur de la vérité. Une fois, Omar, le deuxième calife de l'islam, était parti faire une tournée pour savoir s'il n'y avait pas de musulmans qui souffraient. Il y a un village appelé Mirar à 5 km de Médine. Nos chercheurs disent que ce village se nomme Sarar et pas Mirar. Il se peut qu'il s'agisse d'une erreur d'écriture. Quoi qu'il en soit, le calife Omar a entendu des bruits de pleurs d'un côté. Il s'est rendu dans cette direction et là-bas, il a vu une femme en train de cuisiner quelque chose et deux ou trois enfants en larmes. Il a demandé à la femme quel était le problème. Elle a répondu que ses enfants avaient faim et il n'y avait rien à manger. Et lorsque les enfants sont devenus impatients, il a mis une marmite sur le feu pour les réconforter afin qu'ils s'endorment. En entendant cela, Omar est immédiatement retourné à Médine. Il a pris de la farine, de la viande et des dattes et il les a mis dans un sac. Il a dit à son serviteur de les mettre sur son dos. Le domestique a répondu « Je suis présent, je vais le porter ». Le calife a dit « Tu pourras certainement le porter, mais qui portera mon fardeau le jour de la résurrection ?» En d'autres termes, c'était mon devoir de prendre soin de leur gagne-pain. Et j'ai failli à ce devoir. L'expiation de cela est que je dois porter ces effets moi-même et les emmener chez eux. Hazrat Muslim Maud écrit que les allocations sont accordées aux nécessiteux. Mais on ne doit pas déduire de cet incident qu'on offre ces aides à ces gens pour les rendre paresseux. Il déclare que l'islam enjoint l'aide aux nécessiteux. Et comme indiqué précédemment, l'islam élimine également la paresse et l'oisiveté. Ces aides ne sont pas fournies pour engendrer de la paresse et de l'oisiveté. Le but de ces aides de la part de l'État n'était pas d'inciter les gens à abandonner leurs emplois et leur gagne-pain. Ces aides étaient uniquement fournies à ceux qui vivaient dans la contrainte, sinon on empêchait les gens de mendier. Le calife Omar avait également l'habitude de prendre des mesures très strictes contre la mendicité. Non seulement qu'il nourrissait les affamés quand il les voyait et qu'il offrait quelque chose aux mendiants. Si le mendiant était en bonne santé, il prenait des mesures très strictes à son encontre. Une fois, Omar a vu un mendiant dont le giron était plein de farine. Il mendiait tandis qu'il portait une quantité de farine. Le calife Omar a pris cette farine et l'a placée devant des chabots. Et en vidant son giron, il lui a dit « Mendie maintenant ». Cela prouve que les mendiants étaient contraints de travailler. Il signifiait par là que tu jouis d'une bonne santé. Pourquoi est-ce que tu mendies? Il faut travailler dur, il faut gagner ton pain à la sueur de ton front. Et si tu mendies de nouveau, tu seras traité de la même manière. C'est-à-dire, je vais te déposséder et je vais placer tout ce que tu possèdes devant les animaux. La plupart des mendiants mettent en exergue cet unique exemple et le comportement du calife Omar à l'égard des nécessiteux. Mais ils ne prennent pas en considération la rigueur avec laquelle l'islam interdit la mendicité, ainsi que la pratique du saint prophète Mohammed Pessoa lui et la pratique de Omar qui avait suivi l'exemple du saint prophète Mohammed Pessoa lui. Relatant cet incident dans un autre endroit, Hazrat Muslim Maud déclare « Les grands rois de ce monde tremblaient de crainte en raison de l'aura qu'inspirait le calife Omar. Les royaumes de César et de Khosrès tremblaient, mais d'autre part, dans une nuit obscure, voyant les enfants d'une femme bédouine affamée, un homme noble comme Omar a tremblé et il a chargé un sac de farine sur son dos. Il a pris une boîte d'huile sous les bras et il est parti à leur rencontre et il n'est pas revenu avant d'avoir cuisiné un repas de ses propres mains et après avoir nourri ses enfants et après les avoir endormis. » Aslam, l'esclave affranchi de Omar Aradutalanho, relate ceci. Une caravane de commerçants est venue à Médine et ils ont campé dans l'Idgah. Omar a dit à Abdurrahman bin Auf, souhaites-tu que nous assurions leur sécurité pendant la nuit? Abdurrahman a répondu à l'affirmative et tous deux ont assuré leur sécurité pendant la nuit. Et ils rendaient culte à Dieu. Quand Omar radhiyallahu anhu a entendu les pleurs d'un enfant, il est parti vers sa mère et lui a dit, crains Allah et prends bien soin de ton enfant. En disant cela, il est retourné et il a de nouveau entendu les pleurs de cet enfant. Il est retourné là où il était assis pour assurer la sécurité et il a de nouveau entendu les pleurs de l'enfant. Il est retourné voir la mère et il lui a répété la même chose avant de retourner. Et vers la fin de la nuit, quand il a entendu les pleurs de l'enfant, il est parti voir la mère et il lui a dit que tu es une mère très insouciante. Ton enfant était agité toute la nuit et tu n'as rien fait. La femme a répondu au serviteur d'Allah, « Je tente de lui offrir d'autres aliments que le lait, mais il refuse d'en consommer. Il ne veut que du lait. » Omar a demandé « Pourquoi cela ?» La femme a répondu « Parce que Omar accorde une allocation uniquement aux enfants dont l'allaitement est terminé. » Le calife Omar a demandé « Quel est l'âge de cet enfant ?» La femme a répondu « Tant et tant de mois. » Omar a déclaré « Il ne faut pas le sevrer aussi rapidement. » Ensuite, le calife Omar a dirigé la prière de Fajr et sa récitation n'était pas claire en raison de ses pleurs. Le calife Omar s'est dit « Malheur à Omar, il a tué tant d'enfants musulmans. » Ensuite, il a ordonné aux gens d'annoncer « Ne vous précipitez pas à sevrer vos enfants. Nous allons fixer une allocation pour tout enfant qui naît en islam. » Le calife Omar a envoyé cet ordre dans tout l'empire musulman. Hazrat Muslim Maud Radotalanho a relaté cet incident à sa manière. Le calife Omar Radotalanho n'avait initialement fixé aucune allocation pour les enfants allaités, mais il a reconnu plus tard leurs droits et il a ordonné que leur part soit offerte à leur mère. Auparavant, il pensait que tant l'enfant boit du lait, il ne participe pas à l'existence de la nation. C'est la responsabilité de sa mère. Il n'incombe pas à l'État de le payer du trésor public. Mais un jour, le calife Omar est sorti pour sa tournée. Une caravane de bédouins est descendue en ville. Omar a entendu le cri d'un enfant d'une tente. L'enfant criait et la mère essayait de l'endormir. Lorsque l'enfant ne s'est pas calmé, malgré les gifles, la mère l'a giflé encore une fois en disant que « pleure pour l'âme de Omar ». Le calife Omar était tout étonné et il s'est demandé ce qu'il avait à voir dans cette affaire. Le calife Omar a demandé à la femme la permission d'entrer et il lui a demandé ce qui se passait. Comme elle ne connaissait pas le calife Omar, elle a déclaré que Omar a fixé les allocations pour tout le monde, mais il ne sait pas que les enfants allaités ont aussi besoin de nourriture. Je n'ai pas assez de lait et je l'ai sevré pour que son allocation soit fixée. Le calife Omar est revenu à ce moment-là et il a sorti un sac de farine du trésor et a commencé à marcher seul. L'homme qui était affecté à la trésorerie s'est avancé et il a déclaré « Je vais le porter pour vous ». Omar lui a dit « Laisse-moi tranquille, je vais le prendre moi-même. Quand je serai fouetté le jour de la résurrection, est-ce que tu vas répondre à ma place ? Je ne sais pas combien d'enfants sont morts à cause de moi. » Après cela, le calife Omar a ordonné qu'une allocation soit également fixée pour les enfants allaités. Le Messie Premier Islam déclare que, selon un hadith, Omar bin Khuzaima relate que Omar radhiyallahu anhu a dit à mon père, « Qu'est-ce qui t'a empêché de planter des arbres sur ta terre ?» Il ne plantait pas d'arbres depuis un certain temps et il ne cultivait pas son verger ou il ne remplaçait pas les mauvais arbres par des nouveaux arbres. Mon père a répondu, « Je suis vieux et je vais mourir demain. À quoi cela me servirait de planter de nouveaux arbres ?» Omar lui a dit, « Tu dois certainement planter de nouveaux arbres. Ton argument ne tient pas la route. » Le rapporteur déclare, « Ensuite, j'ai vu le calife Omar planter des arbres sur la terre avec mon père. » Le Messie Premier Islam a relaté cet incident afin d'encourager les gens d'éviter la paresse et l'oisiveté. D'ailleurs, la génération présente est en train de consommer les fruits des générations passées. Il faudra aussi laisser quelque chose pour la génération suivante. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare, « Le calife Omar radhiyallahu anhu avait l'habitude de faire des tournées durant la nuit. Une fois, il était en tournée dans la ville quand il a entendu une femme réciter un poème d'amour. Il s'est renseigné durant la journée et il a su que son mari était absent depuis fort longtemps et qu'il était dans l'armée et qu'il était en campagne, à l'extérieur. Le calife Omar a ordonné par la suite qu'aucun soldat ne doit être en tournée pour plus de 4 mois. Si un soldat veut rester en dehors pour plus longtemps, il doit emmener sa femme avec lui. Sinon, au bout de 4 mois, l'officier de l'armée doit le forcer à rentrer chez lui. Selon les détails à propos de cette récit, il est dit que Omar a demandé à cette femme s'il n'avait pas des intentions pernicieuses, étant donné qu'elle récitait ses poèmes. La femme a répondu « Je cherche refuge auprès d'Allah ». Omar lui a dit « Dites à cette femme de se maîtriser. J'envoie une lettre à son mari. » Et il a envoyé un message pour qu'il soit rappelé à Médine. Ensuite, il a fait plus de recherches et, comme mentionné, il a ordonné qu'un mari ne reste pas plus de 4 mois en campagne, sinon sa femme et sa famille doivent l'accompagner. Aslam, l'esclave affranchi de Omar Radetalanho, relate que une nuit, j'ai accompagné le calife Omar à l'extérieur de Médine et nous avons vu une tente. En nous rapprochant, nous avons entendu une femme éprouver les douleurs de l'accouchement et pleurer. Omar s'est enquis à propos de son état et elle a déclaré qu'elle n'était pas de la région et qu'elle voyageait et qu'elle n'avait pas des provisions. Sur ce, Omar a commencé à pleurer et il est rentré chez lui rapidement. Il a dit à sa femme, Umm Kulthum bin Ali, que « Veux-tu obtenir une récompense qu'Allah souhaite offrir ?» Et il lui a raconté toute l'histoire. Bien sûr, a répondu sa femme. Ainsi donc, Omar a porté de la farine et de la graisse sur son dos, tandis qu'Umm Kulthum radhiyallahu anha prenait les provisions nécessaires pour l'accouchement et ils sont tous deux partis vers cette femme. Umm Kulthum est partie voir la femme et Omar s'est assis avec son mari qui était également présent. Mais celui-ci n'avait pas reconnu le calife Omar radhiyallahu anhu et le calife a commencé à lui parler. Quand la femme a donné naissance à un fils, Umm Kulthum est sorti et il a dit à Omar radhiyallahu anhu, « Ô émir des croyants, annoncez la bonne nouvelle à votre ami qu'il a un fils. » Lorsqu'il a entendu cela, le mari de la femme s'est rendu compte qu'il était assis à côté d'une grande personnalité et il a commencé à s'excuser. Omar radhiyallahu anhu a déclaré qu'il n'avait pas besoin de s'excuser et Omar a offert de l'argent à cette famille, il leur a offert aussi d'autres provisions et ensuite il est rentré. Saïd bin Musayyib et Abu Salama bin Abdurrahman racontent ceci. Par Dieu, quoi qu'Omar ait dit, il l'a accompli. Quand il était temps d'être strict, il a fait preuve de rigueur, et quand il était temps de faire preuve de clémence et de compassion, il l'a fait, et il est devenu comme un père pour les enfants. Il visitait personnellement ses femmes dont les maris étaient absents et il leur offrait ses salutations de paix à la porte. Ensuite, il leur disait « Avez-vous besoin de quelque chose ?»« Si vous avez besoin de quelque chose, j'irai au marché et je vais l'acheter pour vous. Je ne veux pas que quelqu'un vous trompe en matière d'achat et de vente. » Les femmes envoyaient leurs enfants avec lui. Omar entrait ensuite dans le marché avec une foule d'enfants difficiles à dénombrer derrière lui. Omar achetait ce dont ils avaient besoin. Quant aux femmes qui n'avaient pas d'enfants, il achetait lui-même les articles dont elles avaient besoin. Et chaque fois qu'un messager arrivait de l'armée, Omar prenait personnellement les lettres de leur mari et il remettait à ses femmes ces lettres en disant « Vos maris sont partis combattre dans la voie d'Allah et vous habitez dans la ville du Saint-Prophète Mohammed bin Sosadvi. Si vous avez quelqu'un qui peut lire cette lettre pour vous, c'est bien. Sinon, vous pouvez vous tenir tout près de la porte et je vais lire la lettre pour vous. » Et Omar disait ensuite « Notre messager partira d'ici tel ou tel jour. Vous pouvez écrire vos lettres et nous vous les enverrons. » Omar Radetalanho fournissait alors du papier et de l'encre à ses femmes. Et il prenait les lettres de celles qui savaient écrire et il disait à celles qui n'étaient pas capables d'écrire, « Voici le papier et l'encre. Venez près de la porte et dictez-moi votre message. » Omar Radetalanho partait dans chaque maison et il prenait leurs lettres, les lettres qu'avaient écrites ces femmes pour leur mari et il les envoyait. Ali Radetalanho relate, « J'ai vu qu'Omar portait la selle d'un chameau et se dirigeait rapidement vers Abda. Abda est le nom d'un endroit situé tout près de la Mecque et de Médine. En le voyant, je lui ai dit, « Ô émir des croyants, où partez-vous ?» Omar Radetalanho a répondu, « L'un des chameaux qui a été offert en aumône s'est enfui et je vais le chercher. » Ali déclare que sur ce, j'ai dit au calife Omar Radetalanho, « Vous avez tracé des voies très difficiles à suivre pour les califes qui vont vous succéder. » Le calife Omar Radetalanho a répondu, « Ô Abul Hassan, ne me critique pas. Je jure par celui qui a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, même si un chevreau a disparu tout près de l'Euphrate, Omar aura des comptes à rendre à ce sujet le jour du jugement. » Hazrat Muslim Aoud radhiyallahu déclare, « À l'époque du califat d'Omar, un musulman marchait la tête baissée. Le calife Omar pensait qu'il avait peut-être reçu une triste nouvelle ou peut-être qu'il éprouvait des difficultés et c'est pour cette raison qu'il avait la tête baissée. Le calife Omar a soulevé son visage avec son poing et il a déclaré, « C'est l'époque des victoires de l'islam et pourtant, toi, tu as la tête baissée. » En d'autres termes, c'était une ère où Dieu avait accordé la victoire à l'islam et même s'il éprouvait quelques difficultés, il n'était pas nécessaire de baisser la tête comme ça. Omar a déclaré, « Dieu a accordé la victoire à l'islam. » Et le monde peut dire ou faire ce qu'il souhaite. Si tu as une foi absolue que l'islam sera victorieux, il n'y a pas besoin de pleurer sur des problèmes mineurs. Et même si certains musulmans dans un endroit particulier ont subi des pertes, il n'y a toujours aucune raison de pleurer. Il n'y a pas raison de s'inquiéter pour cela. Hazrat Moussa Maoud Radetalanho a mentionné cet incident après la migration de Qadian. Le Moussa Maoud Radetalanho a déclaré, « Un croyant ne doit pas pleurer sur ce qu'il a perdu. Même si les croyants ont subi une perte, ils ne doivent pas regarder ce qu'ils ont perdu. Ils doivent plutôt se demander pour qui ils ont perdu cela. Si quelque chose a été perdu pour l'amour de Dieu et pour le progrès de l'islam, eh bien, Dieu accordera une récompense meilleure. Il ne faut pas s'inquiéter d'une perte temporaire. » De même, le Muslim Aoud a cité un incident bien connu de la vie du calife Omar. Et il en conclut que même si Omar a dû endurer des épreuves, cela ne le dérangeait pas et il a établi l'égalité que l'islam cherchait à établir dans le monde entier. Voici le récit de l'incident suivant. Il y avait un certain Jabala bin Ayham qui était un chef éminent d'une tribu chrétienne. Lorsque les musulmans ont commencé à conquérir la Syrie, lui et sa tribu ont embrassé l'islam et ils se sont rendus à la Mecque pour accomplir le Hajj. Au cours du Hajj, il y avait une grande foule et par mégarde, un musulman a marché sur le pied de Jabala. Dans certains récits, il est dit que le musulman a marché sur l'ourlet du Jubba de Jabala. Étant donné qu'il se considérait comme un grand chef et qu'il y avait 60 000 personnes qui le suivaient, en fait, selon certains récits historiques, 60 000 était le nombre de ses soldats. Quoi qu'il en soit, un musulman partiellement vêtu a marché sur son pied et il était enragé, ce chef, et il l'a giflé en disant, « Pourquoi m'as-tu outragé? Ne sais-tu pas qui je suis? Tu aurais dû reculer par respect, mais tu as marché sur mon pied avec impudence. » Après avoir été giflé, le musulman est resté silencieux. Mais un autre musulman a pris la parole en disant, « Es-tu conscient du fait que tu as accepté l'islam? Et l'islam ne fait pas de distinction entre les gens ordinaires et les gens éminents. Surtout dans cette maison, c'est-à-dire dans l'enceinte de la Kaaba autour de laquelle il effectuait des circuits. Il n'y a pas de différence entre riches et pauvres ici. Jabala a répondu, je ne m'en soucie guère. Le musulman a dit que si l'on s'en plaint à Omar, eh bien il va certainement venger ce musulman. Jabala bin Ayram a entendu cela et il était furieux. Il a dit, quelqu'un pourra-t-il gifler Jabala bin Ayram au visage? Le musulman a dit, je ne connais personne d'autre, mais c'est ainsi qu'Omar va régler la question. En entendant cela, Jabala a terminé le circuit de la Kaaba. Il s'est rendu dans le rassemblement de Omar et a demandé si une personne éminente gifle un homme ordinaire, que faites-vous en ce cas? Omar a répondu, nous demandons à la personne ordinaire qui a été giflée de gifler l'autre en retour. Jabala dit alors, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Si une personne importante gifle une personne ordinaire, que faites-vous en ce cas? Omar a déclaré, dans l'islam, il n'y a pas de discrimination entre les gens éminents et ordinaires. Omar a dit, Jabala, est-ce que tu as commis cette faute? Sur ce, Jabala a menti. Il a déclaré, je n'ai giflé personne et que j'avais tout simplement posé une question. Mais il est parti immédiatement et il est retourné dans son pays avec son peuple. Et ils sont devenus des apostats et il a combattu aux côtés des Byzantins contre les musulmans. Mais Omar n'en était guère inquiet. C'était là le niveau d'égalité établi par l'État musulman. Et c'est une leçon pour les gouvernements musulmans d'aujourd'hui. Inch'Allah, je vais continuer ces récits dans le prochain sermon. Je souhaite mentionner ici quelques personnes qui sont décédées récemment. La première personne est Abdul Wahid Waraj Saheb, qui était le président local de la Jamaat de Waldhurst en Allemagne. Il a servi comme sadar national de la Roudamul Ahmadiyya et secrétaire national de Tarbiya en Suisse. Il est décédé le 12 mai dernier à l'âge de 41 ans des suites d'une maladie lors de sa descente, après avoir gravi avec succès le mont Everest et après y avoir hissé le drapeau de l'Ahmadiyya à son sommet. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il laisse derrière lui sa veuve, trois fils et deux filles, ses deux parents, un frère et deux sœurs. Le président national de la Jamaat de la Suisse, M. Tariq Mudassar Saab, écrit ceci. Depuis le début jusqu'à sa disparition, Abdul Wahid Waraich est resté un membre actif de la communauté. À la fois en tant que membre de la communauté et en tant que titulaire de poste, il était un Ahmadi exemplaire et loyal. Abdul Wahid Waraich s'acquittait toujours de ses responsabilités envers la communauté avec une grande humilité. Il n'y avait aucun signe d'arrogance en sa personne. Non seulement encourageait-il les autres à servir l'humanité, mais il a aussi prouvé par son exemple. Il s'était rendu en Afrique pour divers projets de l'Association des architectes Ahmadi. Il a servi l'humanité là-bas et de nombreux jeunes ont suivi son exemple et sont partis en Afrique. Lorsqu'il a été nommé sadar de la Roudamul Ahmadiyya, il cherchait de nouvelles façons pour mener à bien l'éducation et la formation morale de la jeunesse, afin de sauver la jeunesse de la tendance et des attraits matérialistes de l'Europe. Son sens de sacrifice financier était exemplaire. L'un de ses fils, Talha Waraich, étudie à la Jamia Ahmadiyya en Allemagne. Et l'Amir Saab écrit qu'il a bien élevé ses enfants. Et c'est pour cette raison que son fils étudie à la Jamia. En bref, feu Abdul Wahid Waraich était un Ahmadi exemplaire qui s'est acquitté de ses devoirs envers Dieu et envers sa création. Des non-Ahmadis ont également exprimé leur tristesse à l'occasion de son décès. Monsieur Stephen Lord écrit, « J'ai travaillé avec Wahid Waraich pendant de nombreuses années dans une entreprise appelée Swisscom, la plus grande entreprise de télécommunications de Suisse. J'ai travaillé avec lui et dans son équipe pendant environ un an. Mon respect pour lui n'était pas seulement dû à son aptitude dans son domaine de travail, mais surtout à cause de la manière dont il se comportait. Wahid Waraich a toujours fait preuve d'une excellente qualité morale et il aidait les autres. C'était quelqu'un d'honnête, une personne digne de confiance. J'ai aussi aimé lui parler des choses qui n'étaient pas liées au travail. Le missionnaire écrit à son sujet qu'il possédait de nombreuses qualités. Il aimait le califat et il offrait régulièrement ses prières du vendredi à la mosquée. Et il s'efforçait également d'accomplir ses autres prières à la mosquée. Il accomplissait régulièrement ses prières de tahajjud. Le secrétaire national des finances, Rizwan Saab, écrit ceci. Le défunt travaillait dans la branche Microsoft en Suisse en tant qu'ingénieur logiciel. Une fois, il m'a dit que la succursale de Microsoft en Suisse était en train d'être fermée et déménagée à la Silicon Valley. Et ils m'ont proposé de l'accompagner. Ils fourniraient toutes les facilités, ils allaient augmenter son salaire et ils l'aideraient aussi pour son déménagement de la Suisse. Cependant, il a dit qu'il refusait parce qu'il ne pouvait pas laisser ses responsabilités au sein de la communauté. Il ne pouvait pas abandonner la communauté et partir aux États-Unis. Et après quelques jours, il a dit que par la grâce d'Allah, cette branche avait été achetée par une grande entreprise suisse appelée Swisscom. Le défunt disait qu'il tentait de le transférer aux États-Unis, mais Allah le Tout-Puissant a pris les dispositions ici. Et non seulement cela, mais Allah a accordé sa grâce de telle manière que son salaire a été augmenté et son salaire dépassait même le salaire de son patron. Zahid Saheb, le secrétaire national des affaires externes, déclare « Je le connais depuis 26 ans. J'ai eu l'occasion de servir avec lui au sein de la Khuddam al-Ahmadiyya. Il était un individu très respectable et digne, régulier dans ses prières. Il était régulier dans ses jeûnes. Il était dévoué au culte, très travailleur, loyal et obéissant au califat. Il était un ami très gentil et sociable. Dès sa jeunesse, il avait une disposition différente. Je ne l'ai jamais vu en colère et il n'y avait pas trace de colère sur son visage ou dans sa voix. Jamais il n'a élevé la voix ou jamais il n'a parlé d'un ton dur. Si nous commettons des erreurs, il nous prenait en aparté et il nous expliquait avec gentillesse. Il traitait tout le monde, jeune et vieux, poliment et avec le sourire. Il avait toujours un léger sourire sur le visage. Il était un exemple vivant de celui qui était prêt à sacrifier sa vie, sa richesse et son temps pour la cause de Dieu. Il a guidé de nombreux jeunes en Suisse concernant leur éducation et leur avenir. Et il a aidé des dizaines d'autres à trouver un travail. Sous l'égide de la Khuddam al-Ahmadiyya, il a créé le club de randonnée Ahmadiyya et a initié de nombreux jeunes à la randonnée. Il possédait une grande détermination. Une fois, je lui ai demandé s'il avait peur lors des randonnées. Il disait que oui, il avait peur parfois et que sa famille n'aime pas cela. Mais il avait trouvé une solution à cela quand il a rencontré le calife. En effet, il est venu me rencontrer et il a suggéré que si le calife lui accordait la permission, alors il avait l'intention de gravir les plus hauts sommets du monde sur les 7 continents et d'y hisser le drapeau de l'Ahmadiyya sur chacun de ces sommets. Il a dit qu'il avait exprimé son inquiétude à l'idée que le calife ne lui donne pas cette permission. Mais en tant que calife, je lui ai donné la permission de le faire s'il en était capable. Et il a dit qu'en conséquence, si Dieu le veut, voilà ce qu'il allait faire. Ainsi, ce jeune homme n'a jamais regardé en arrière et il a travaillé sans relâche pour atteindre cet objectif. Et il a gravi les sommets les uns après les autres. Et il a pu hisser le drapeau de l'Ahmadiyya au plus haut sommet du monde, c'est-à-dire le mont Everest. La personne ajoute, « Je ne sais pas si sa mort peut être considérée comme un martyr ou non, mais d'après ce que j'ai personnellement vu, je peux dire qu'il avait une telle passion pour sa foi, une passion que l'on ne trouve que chez des personnes vertueuses qui cherchent le martyr. Selon moi, il avait en effet tenté d'atteindre un objectif noble avec un grand zèle. Il a tenté de transmettre le message de l'islam et de l'Ahmadiyya, le message de l'unicité de Dieu. Il a réussi dans cette entreprise et il est retourné vers Dieu lors de ses efforts pour atteindre cet objectif. Et certainement, il a mérité le rang du martyr. Nous prions également qu'Allah lui accorde le rang d'un martyr et qu'Allah le compte parmi les martyrs. Son père, Khadim Hussein Waraich, déclare « Nous avons vu que notre fils continuait à exceller et grimper une montagne après l'autre, et il n'a jamais regardé en arrière. Mes amis me demandaient pourquoi je ne l'arrêtais pas, parce que c'est un passe-temps très dangereux. Je répondais que même si j'essayais, il n'allait pas s'arrêter, parce qu'il a la passion de hisser le drapeau de la Jamaat sur tous les sommets du monde et de diffuser le message de l'unicité de Dieu. » Un ami a écrit, « Une fois, j'ai demandé à Sadar Saheb, c'est-à-dire le défunt Abdul Wahid Waraich, ce qu'il écoutait sur son téléphone en escaladant les montagnes afin de se motiver. Sadar Saheb m'a dit qu'il avait téléchargé les livres du Messie Premier Islam et qu'il les écoutait pendant ses voyages. Il ajoute, « Un jour, je lui ai demandé, « Comment accomplissez-vous vos prières à une si haute altitude et dans le froid ?» Il a répondu, « Cher missionnaire, je prends beaucoup de plaisir à prier sur les montagnes. Et je me souviens que les prophètes d'Allah faisaient leurs actes d'adoration dans la solitude des montagnes, à l'écart de l'ambiance de ce monde. » Le missionnaire ajoute que Abdul Wahid Waraich m'a relaté qu'il devait monter le mont Delani qui se trouve au nord de l'Alaska. Il s'agit de la montagne la plus froide au monde. Lors de son ascension, son index s'est gelé. Et lorsqu'il a montré la plaie au médecin, celui-ci a dit que son doigt était complètement gelé. C'était comme si le doigt n'appartenait plus au corps. Le médecin a ajouté, « Nous allons devoir amputer ce doigt tout de suite, parce que ce doigt n'était plus d'aucune utilité. » Le défunt avait répondu, « Il s'agit de l'index avec lequel nous témoignons de l'unicité de Dieu lors de la prière. Je ne vais certainement pas accepter qu'on me le coupe. » Par la suite, par la grâce d'Allah, en raison des prières, son doigt est devenu tout à fait normal. Qu'Allah permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. En ce qui concerne ces qualités dont ont témoigné les gens, je suis également témoin qu'il excellait en celle-ci. Il mettait en application toute directive du calife et il ne se contentait pas de parler. Il faisait preuve d'une grande fidélité, d'une grande sincérité, une sincérité et une fidélité qu'il ne cessait de développer de jour en jour. Il faisait partie de ces personnes dont le départ laisse un grand vide. Cependant, comme je l'ai dit, son objectif était de hisser la bannière de la religion d'Allah et la bannière de son unicité sur tous les sommets. Et à cet égard, il a atteint cet objectif avec succès. Qu'Allah lui accorde son pardon et qu'Allah lui accorde sa miséricorde et qu'Allah élève son rang. La prochaine personne que je mentionnerai se nomme Amtul Noor Saheba, l'épouse du docteur Abdul Malik Shamim Saheb et la fille de Saheb-Zadi Abdul Rashid Begum Saheba et de Mian Abdul Rahman. Elle est décédée le 15 juin dernier à Washington, aux États-Unis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, la défunte faisait partie du système d'Al-Wasiya. Elle était l'arrière-petite-fille du Messie premier Islam. Et de même, elle était l'arrière-petite-fille du premier calife de la communauté du côté maternel. Elle était la petite-fille de Hazrat Muslim Aoud et de Hazrat Sayyida Amtul Hay Saheba. Elle était la petite-fille aussi d'un compagnon du Messie premier Islam, le professeur Ali Ahmad, originaire du Bihar. Comme je l'ai dit, elle a épousé le docteur Abdul Malik Shamim, qui était le fils de Molvi Abdul Baki. Allah le Très-Haut a accordé à la défunte deux filles. Dans le sermon du Nikah, après avoir récité les versets du Saint-Coran qui sont récités lors de ce sermon, le troisième calife a déclaré que Dans ces versets qui sont cités à l'occasion du Nikah, il est dit que pour la réforme des actes, il est important de dire la vérité exempte de toute forme d'ambiguïté, c'est-à-dire la Qawli Sadid. La majorité des souffrances et des soucis sont la conséquence de mauvaises actions et des méfaits. En ce qui concerne la relation mutuelle, ces mauvaises actions résultent du fait de ne pas dire cette vérité exempte d'ambiguïté. Si les choses sont dites de façon véridique et non ambiguë, alors il n'y aura plus de place pour un quelconque malentendu et il n'y aura pas de danger pour un quelconque écart de conduite ou un désaccord. Qu'Allah nous accorde à tous la capacité de faire de bonnes œuvres et qu'il nous permette à nous tous de réformer nos actes et qu'il nous permette d'avoir cette habitude de dire ces vérités exemptes de toute ambiguïté et que cela devient un signe qui nous distingue. Il avait 5 ou 6 autres annonces de mariage en sus de celle de la défunte. Le 3e calife a dit à propos de la défunte, « Il y a le nikah d'une personne pour laquelle j'ai de l'affection. Il s'agit d'une de mes filles. Il s'agit de la fille de Mia Abdurrahim Saheb et de ma petite sœur Amtour Rachid. Il s'agit d'Amtour Nour qui va épouser le docteur Abdul Malik Shamim, qui est le fils du docteur Abdul Baki. » Il a ensuite déclaré, « Je prie qu'Allah, de par sa grâce, accorde beaucoup de joie à ce couple et aux autres 5 couples. » Il a également prié pour chaque personne de ces couples et pour l'Ahmadiyya. Le 3e calife a ajouté, « L'intention principale doit être celle du bienfait de l'islam. L'Ahmadiyya aura la victoire suprême après une longue période d'efforts. De ce fait, il est important que chaque génération qui se succède ait une bonne éducation et une bonne mentalité. Si la grâce d'Allah n'est pas présente, alors tout effort entrepris par l'homme sera futile et ne portera pas des fruits. Je prie donc que ce mariage et les mariages qui auront lieu à l'avenir puissent renforcer l'islam et stabiliser l'islam. » Sahibzadi Amtour Nour Sahiba, la défunte, a eu l'occasion de servir la communauté. Il a servi en tant que secrétaire national de la Tarbiyya des États-Unis, en tant que vice-présidente nationale des États-Unis, de présidente Sadar locale des Lajina de Washington. Elle a également servi dans de nombreux comités. Sa fille aînée, Amtour Mujib Sahiba, écrit ceci. La défunte a toujours donné préséance à sa foi sur le monde. Elle avait une grande empathie pour tout le monde. Si ma mère pouvait aider une personne, elle le faisait de manière extraordinaire et elle était très soucieuse de ses actes d'adoration. En plus de ses 5 prières quotidiennes, à chaque fois que je me suis réveillé la nuit, je l'ai vue offrir la prière de Tahajjud. Le mari de la défunte, Amtour Nour, était décédé dans un accident de voiture. Et sa fille ajoute que, après le décès de notre père, notre mère est restée veuve pendant 20 ans. Et même dans ces circonstances, elle avait une confiance complète en Allah. Elle était très reconnaissante et avait l'habitude de dire qu'Allah a accordé beaucoup de grâce et de bonté sur nous. Elle disait toujours qu'Allah nous a promis que si nous sommes reconnaissants, il nous accordera davantage. Nous devons être toujours reconnaissants envers Allah. Et elle avait un grand cœur et elle était imbue d'un grand sens de l'hospitalité. Et elle était emplie de sympathie et elle aimait la réconciliation. Elle ajoute, « J'ai souvent entendu ma mère dire cette phrase que le Messie Premier d'Islam disait que « La réconciliation véritable ne signifie pas que si quelqu'un souhaite se réconcilier avec vous, eh bien vous l'acceptez. La véritable réconciliation consiste dans le fait de se réconcilier avec quelqu'un qui coupe les ponts avec vous. » Ma mère recherchait les qualités positives chez toute personne de sa famille ou dans son entourage. Il s'occupait des membres de sa famille, des membres de la communauté et de ses voisins. Dès qu'un nouveau invité venait à la mosquée, elle le cherchait et s'asseyait avec cette personne pour discuter et lui souhaiter bienvenue. Tout le monde disait que la défunte était très aimante. Sa 2e fille ajoute que la défunte portait un grand amour à l'égard des membres de la communauté, en particulier à ces personnes qui étaient nouvellement converties. Et les gens l'appréciaient beaucoup. Et elle souhaitait aider tout le monde. et elle appréhendait toujours le fait de rencontrer quelqu'un qui soit dans le besoin et qu'elle ne soit pas en mesure de l'aider. Amtul Basir, la sœur aînée d'Amtul Nur Sahiba, écrit « Il y avait une sœur afro-américaine qui se prénommait Shakura Sahiba. Lorsqu'elle a accompli le pèlerinage à la Mecque, elle a vu en rêve la maison de Nushi, c'est-à-dire la maison de la défunte Amtul Nur, qu'on appelait Nushi, et elle a vu que la maison de la défunte se trouvait à la Mecque. La sœur afro-américaine Shakura est partie rencontrer la défunte, et la défunte lui a dit « Je suis à votre service ». Ce rêve signifiait que « Vous devez venir chez moi et je dois vous servir ». Amtul Basir, la sœur de la défunte, ajoute que la sœur Shakura, qui est afro-américaine, est restée chez notre sœur Nushi pendant 18 ans. Et pendant 8 ans, la sœur Shakura était alitée et elle avait presque perdu la vue. Nushi s'est occupée d'elle et elle l'a dirigée également dans la swala parce que la sœur Shakura oubliait ses prières. Moi-même, j'ai été témoin que la défunte s'est bien occupée de la sœur Shakura. Lorsque je suis parti aux États-Unis, la défunte avait emmené la sœur Shakura sur une chaise roulante pour me rencontrer. Et la sœur Shakura était elle-même très reconnaissante envers la défunte pour son aide. La défunte appréciait également la prédication et elle tentait d'une manière ou d'une autre d'introduire la communauté Ahmadiyya aux autres. Lorsqu'on lui demandait d'où elle était originaire du Pakistan, elle disait toujours qu'elle venait de Rabwa et de là débutait la discussion pour la prédication. Une famille juive avait accepté l'Ahmadiyya et l'une des femmes de cette famille se prénomme Rukaya Assad. Elle a servi au sein de l'Amla nationale des Lajna des États-Unis. Elle dit que Amtul Nur avait une très belle personnalité et tout le monde en a profité. Toutes les personnes qui ont eu l'occasion de la côtoyer ont fait les éloges de ses qualités. Elle a conformé ses vœux et gestes aux enseignements de l'islam et de l'Ahmadiyya, et c'est pour cette raison que les gens étaient impressionnés par elle. Elle était un modèle à suivre, et elle avait réellement dédié sa vie pour éduquer les Lajna à la lumière des préceptes du Messie premier l'Islam. Elle participait dans tous les programmes et elle a toujours servi de façon bénévole. Elle a fait face à des difficultés et à des soucis en faisant preuve de patience, de persévérance et de détermination. Elle était un modèle à suivre à cet égard. Elle prêchait avec amour et sincérité et elle était à l'avant-garde pour s'occuper des nouveaux invités. Elle était un modèle à suivre à la fois pour les femmes jeunes et âgées. Cette dame ajoute « Plus j'avance en âge, plus mon respect pour la défunte grandit. Nous disons que nous devons aider les créatures de Dieu, que nous devons nous occuper des nécessiteux. Et pendant de nombreuses années, la défunte s'est occupée des membres qui n'étaient pas de sa famille. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de temps pour elle et qu'elle servait les autres. » D'autres femmes, en particulier des femmes d'origine afro-américaine, ont écrit qu'elle était très aimante à leur égard et qu'elle leur a beaucoup appris au sujet des préceptes de la Jamaat, qu'elle permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres et d'être toujours attachée à l'institution du califat. La défunte était très fidèle envers le califat et à mon égard, elle a fait preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard du califat et d'une grande humilité. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. La prochaine personne que j'évoquerai se nomme Bismillah Begum Sahiba, épouse de Nasir Ahmad Khan Bahadur Shah, ancien officier de sécurité de la Hifazat-e Khas. Elle est décédée le 14 juin dernier à l'âge de 84 ans en Allemagne. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par l'intermédiaire de son père, Chaudhry Mazalul Haq Khan, qui était originaire de Qadgari. Celui-ci avait eu l'occasion de travailler dans l'internat de Qadian. Le Messie premier l'Islam lui avait offert sa chemise en guise de bénédiction. La défunte, quant à elle, avait 5 filles et 2 fils. L'un de ses fils est Mahmoud Ahmad. Il sert comme missionnaire de la communauté. Il est également l'amir des îles Fidji. Mahmoud Ahmad, qui est notre missionnaire, écrit que, après le décès de notre respecté père, notre mère payait d'abord les cotisations avec les revenus qui provenaient de ses terres. Ensuite, elle économisait la retraite de notre père et ne la dépensait pas. Avec cet argent, elle a fait construire une mosquée à Tahirabad. Et elle nous a toujours enseigné de rester attachés à l'institution du califat. Il ajoute, après le décès de notre père, elle nous a donné à tous l'amour d'un père et d'une mère. Elle n'a jamais laissé l'absence de notre père nous manquer. À l'époque, j'étais en première année de la Jamia Ahmadiyya. Et elle me disait toujours que tu es un soldat de la religion et tu as dédié ta vie pour servir la religion. Tu feras tout ce que le calife te demandera de faire. Elle a répété cela jusqu'à ses derniers moments. Il ajoute, au début, depuis notre village, seul mon père était parti s'installer à Rabwa. Ainsi, les membres de notre famille, nos proches, venaient souvent du village à Rabwa. Et elle s'occupait d'eux avec un grand sourire. Et elle se dépassait pour leur offrir une bonne hospitalité en toute dignité, malgré ses moyens limités. Et elle était très soucieuse des droits des voisins et elle s'acquittait très bien de ses devoirs à leur égard. Et elle considérait mes camarades de classe comme ses enfants. Et elle me demandait d'inviter à la maison les enfants qui résidaient à l'internat et qui venaient des pays étrangers, afin qu'ils ne soient pas affectés par le mal du pays. Le fils de la défunte ajoute, « Les étudiants de la Jamia Ahmadiyya profitaient souvent de la gentillesse de notre mère, dont plusieurs missionnaires qui sont aujourd'hui témoins de cela. Outre les étudiants du Pakistan, il y avait de nombreux étudiants de l'Indonésie et de l'Afrique qui avaient profité de sa gentillesse. » Il ajoute, « La défunte distribuait l'intégralité de l'argent qu'elle avait ou bien elle offrait cela dans les fonds de la Jamaat. Et personne n'avait le courage de lui dire d'en garder également pour elle-même. Notre missionnaire n'a pas pu participer aux funérailles de la défunte en raison de ses activités sur le terrain. Comme je l'ai dit, il est missionnaire en charge de la Jamaat aux îles Fidji. Il est aussi l'émir de la Jamaat. Qu'Allah lui accorde patience et sérénité et qu'Allah accorde patience et persévérance aux autres enfants de la défunte. Et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres. Et qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. » Ensuite, je vais diriger la prière funéraire du colonel Javed Rushdie, qui était le fils de Chaudhry Abdul Ghani Rushdie de Rawalpindi. Il est décédé il y a peu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, le défunt faisait partie du système d'Al-Wasiya. Après avoir pris sa retraite de l'armée, il a dédié tout son temps aux activités de la communauté. Il a servi en tant que secrétaire d'Alim, secrétaire Wakf-e-Jadid, secrétaire aux affaires matrimoniales et secrétaire local d'Al-Wasiya. Il a servi au cours de 3 mandats en tant que président de Satellite Town. Il était quelqu'un qui priait beaucoup, qui était discret lorsqu'il aidait les autres. Il était empli de sympathie et il aidait les nécessiteux qui étaient en difficulté. Il était un bon gestionnaire. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde. Je dirigerai la prière funéraire de toutes ces personnes après la prière de Jumma, Inch'Allah.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ